Nous retrouvons le frère Joël pour parler toujours de liturgie et nous allons nous intéresser à comment la liturgie est vécue ici à l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Tournailles. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire quels sont les temps de prière que vous vivez chaque jour ici à l'abbaye de Tournailles ?
Chaque communauté, après la réforme proposée par le Concile, a connu pas mal de mutations et de changements dans son mode de vie, ses horaires, etc., liés aussi au fait que, de plus en plus, les communautés étaient obligées de travailler pour gagner leur vie. Donc ça a été un équilibre, en fait, à retrouver entre prière et travail, qui sont un peu deux piliers de notre vie. C'est deux piliers, il y en a d'autres, mais enfin, ceux-là sont importants, connus sous le nom de ora et labora, prix et travail. Donc, dans l'organisation concrète aujourd'hui de la vie de prière de la communauté, nous commençons la journée par la prière de l'aude à 6h20, qui dure à peu près 40 minutes. L'aude, louange, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est la première parole que nous disons dans notre église pour commencer la journée. Ensuite, nous avons l'Eucharistie à 9h du matin. Entre la fin des laudes et l'Eucharistie, c'est un long temps de silence, de prière silencieuse, de méditation de la parole, d'oraison, prière plutôt personnelle. Ensuite, en milieu de journée, autour de midi, nous avons un office du milieu du jour, que nous appelons l'heure médiane, au sens technique du mot, qui est un office relativement court, un quart d'heure, 20 minutes, et qui permet de marquer justement la moitié de la journée. Et puis, nous avons en fin de journée l'office de vêpres, qui est le pendant comme une grande heure par rapport à des petites heures, le pendant de l'office de l'aude, qui est l'office de vêpres, l'office du soir, qui est aussi un office de louange pour rendre grâce au Seigneur de la journée passée. Et puis, nous avons les vêpres aujourd'hui durent à peu près aussi 35 minutes. Et nous avons, au début de la nuit, un office dit de vigile. Vigile, c'est l'office de veille. Nous l'avons ici à Tournailles en fin de journée, à 21h, qui est l'office des lectures, c'est-à-dire un office où il y a plus de psaumes, un office qui n'est pas directement lié à une heure. On peut le dire éventuellement tôt matin, ce que d'autres communautés ont fait. Dans la nuit, il y a encore une ou deux communautés en France qui ont l'office de nuit, l'office des lectures pendant la nuit. On peut même aussi le dire éventuellement à midi ou à d'autres. Voilà, il n'est pas lié. Si l'office... La liturgie des heures doit sanctifier les heures de la journée. Celui-là est amovible. Il viendrait sanctifier l'heure à laquelle on le dit. Alors pour nous, il y a une certaine symbolique du soir. À l'époque, quand on est passé de l'office de nuit, fallait-il prendre le matin, le soir ? En fait, dans la symbolique de l'époque, c'était il se passe beaucoup de choses dans le monde le soir. Pas toujours que des choses belles d'ailleurs. Donc pourquoi ne pas nous consacrer un temps au début de la nuit pour porter dans la prière ce que nos frères humains vivent au début de la nuit.
Comment préparez-vous la liturgie ici à Tournailles ? Est-ce qu'il y a des préposés à la liturgie ?
Il y a donc une petite commission responsable de la liturgie qui travaille en tant que de besoin, c'est-à-dire pour le renouvellement. Maintenant, il y a donc presque 50 ans que nous avons une liturgie en français. Pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle se renouvelle. Donc, il y a des propositions de nouveautés. Il y a la préparation des grands offices. Les offices de la Semaine Sainte, qui sont bien rodés, néanmoins, nécessitent qu'il y ait des préparations, parce qu'il y a aussi des nouveaux frères qui ne l'ont jamais vécu. Alors, petite commission qui a essentiellement un travail d'organisation, de préparation. Et puis, il y a en communauté un maître de chant, celui qui est davantage responsable du chant, et un maître des cérémonies, c'est-à-dire celui qui doit veiller à ce que toute célébration se passe calmement, paisiblement, car la prière... La liturgie est un exercice de prière. Ce n'est pas le moment où il faut que ça se passe bien, mais ce n'est pas non plus un moment où on va non plus claquer des doigts ou donner des ordres trop compliqués. Il faut que ça se passe bien.
Les textes de la liturgie, on en a déjà parlé, c'est finalement ceux qui sont communs à tous les monastères ?
Aujourd'hui, oui. Donc, je vous disais, comme tout à l'heure, essentiellement la Bible et puis les... Psaume, donc, matière première, hein, je dis, nourriture abondante. Alors, se poser la question de la traduction, car il y a plusieurs traductions de la Bible. Et donc, il y a, notamment pour le psautier, Il y a une traduction qui est officielle sans être obligatoire. Il s'appelle le psautier liturgique œcuménique, qui a eu connu plusieurs traductions, qu'utilisent aujourd'hui la plupart des communautés, mais pas toutes. Ici, nous avons, c'est une histoire de communauté, je ne saurais peut-être pas très bien vous dire pourquoi, mais nous avons gardé, parce que c'est probablement le premier texte choisi tout à fait au début, la Bible de Jérusalem. Donc le psautier que nous utilisons est le psautier de la Bible de Jérusalem, qui a été le premier mis entre les mains ou dans les voies du peuple de Dieu pour chanter. Mais je pense à Rancalca, qui est un psautier à part, l'abbaye de Ligugé, qui est aussi un psautier à part. Voilà, le psautier aujourd'hui la traduction n'est pas obligatoire. On constate que des prêtres qui viennent ici sont souvent interpellés. Ce n'est pas la traduction habituelle. Le fait d'avoir une traduction autre que celle dans laquelle on dit l'office tous les jours permet peut-être de faire plus attention à tel psaume, à telle façon de dire une chose.
Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Jésus, serviteur du Père,
la liturgie se vit dans un lieu bien défini. Ici, c'est l'abbatiale Notre-Dame de Tournai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre église ?
Notre église, donc abbatiale parce que nous sommes une abbaye, a été construite dans les années 55-58 et a été donc dédicacée, consacrée le 2 octobre 1958, l'année du premier centenaire des apparitions Notre-Dame de Lourdes, puisque nous sommes dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Et 1958, c'est donc avant le concile. La conséquence a été que l'architecte qui a construit le monastère et construit l'église l'a encore conçu selon la liturgie antéconciliaire. Il y avait notamment les 7 degrés du sacerdoce, donc entre le degré par lequel on entrait dans l'église jusqu'à l'autel majeur au fond, il y avait 7 marches à différents degrés. Cela a donc fonctionné, et très bien, selon une liturgie ordonnée dans ce sens. Et puis, après le Concile, les premiers changements, bouleversements, etc., ont conduit petit à petit à modifier. La première grande modification a été le déplacement de l'autel. L'autel qui, avant, était tout à fait au fond. Le prêtre disait la messe dos au peuple lorsque est intervenue la possibilité de la concélébration et de la messe dite face au peuple. Il a fallu le dégager du mur contre lequel il était. Donc le dégagement de l'autel a été la première grande opération avec la possibilité d'une concélébration autour de l'autel. La deuxième grande modification de l'époque a été de partager la nef avec les fidèles. La communauté devenait aussi moins nombreuse qu'elle n'a été. Il y avait au début 60 stalles installées dans la nef de l'église. La communauté n'a jamais dépassé 40 moines. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine. Donc un problème de rapport, de lieu, pour que les fidèles puissent avoir de la place. Donc ça a été retirer les stalles et partager la nef avec les fidèles. Et puis, troisième étape importante, dans les années 2000. Réflexion aussi d'une insatisfaction des lieux, du mobilier et du fait que notre église n'était pas ou mal chauffée. Si on voulait l'habiter toute l'année, difficile. Et nous allions, en gros, de la Toussaint au Rameau, dans une crypte au sous-sol, qui était un lieu relativement petit, donc bien chauffé, mais un peu difficile d'accès, tant pour la communauté, surtout que pour les hôtes qui ne passaient pas par le même lieu. Il y avait un escalier en colimaçon qui devenait dangereux pour les personnes âgées, etc. Donc toute cette réflexion nous a fait faire un énorme travail dans les années 2004-2005, où, selon le concept d'un nouvel architecte, il a imaginé une petite église dans la grande. Donc, c'est-à-dire sans retirer le volume, la dimension, etc., il a fait construire un planum de 220 mètres carrés qui suffit pour la communauté et les fidèles. Avec ce choix très important pour nous, qu'il n'y ait plus de différence de degré entre l'assemblée des fidèles et le cœur des moines. Donc nous sommes sur le même plan, ce qui, je crois, symboliquement dit quelque chose de notre vie de communauté. Nous voulons être le plus proche des gens, rendre possible une seule assemblée, et le fait d'être sur le même planum va dans ce sens. Puis nous avons eu une dernière modification de notre Église, un renouvellement dans les années 2021-2022, qui a consisté essentiellement à faire une chose qui n'avait jamais été faite avant, et on se demande pourquoi, de percer trois ouvertures dans ce qu'on appelle le cul de four, c'est-à-dire dans l'abside, pour donner enfin de la lumière à l'Église, alors qu'avant elle était assez sombre. Donc ces travaux-là ont entraîné d'autres modifications. Nous avons, c'est le mouvement balancier de l'histoire, remis des stalles, ce qui fait que notre Église est très en béton. L'alliage ou l'alliance bois-béton est aujourd'hui une chose agréable. Bref, venez voir, venez prier avec nous et vous comprendrez combien notre Église aujourd'hui est un lieu propice à la prière.
Merci beaucoup, frère Joël.